Donc bonsoir à Zenzile.
Salut Julius.
Salut.
Donc deux membres du groupe, respectivement à quel poste?
Alors moi je m'appelle Raggy, je joue sax, flûte, clavier.
Ok.
T'en oublies mais voilà. Et moi c'est Matt et je fais de la basse.
Ok. Donc là vous jouez donc ciné-concert plus un set entre guillemets normal. Donc Berlin qui date déjà depuis, c'est quoi, ça fait 10 ans, c'est 10
ans,
en fait.
C'est l'année des 10 ans de Berlin.
Ouais. Ok, ouais.
Enfin, la ville a été fondée il y a vachement plus longtemps.
Oui, alors, c'est vrai, ouais.
C'est l'année des 10 ans du ciné-concert.
Voilà, attention.
Sur le film Berlin. Là, ça
voilà, ne récupérez pas les infos voilà. Pour en faire n'importe quoi.
Oh, je taquine.
Et on l'a remonté, en fait, parce qu'on a fêté les 30 ans du Shabada le mois dernier à Angers.
Ah, ok.
Ils nous ont approché en disant, ah, c'est les 10 ans de votre ciné-concert, c'est nos 30 ans, est-ce que ça vous dirait de fêter cet anniversaire-là avec le nôtre? Et puis comme c'est les 30 ans aussi du château d'eau, et c'est toujours les 10 ans de Berlin, on est venu faire un anniversaire aussi ce soir.
Ok. Parce que je voyais aussi que Elements, moi je l'ai découvert là récemment, j'avais suivi toute la carrière jusqu'à à peu près l'album studio d'avant, c'était Pawn Shop peut-être. C'est Electric Soul qui est venu après, ok. Et je voyais dans le descriptif sur Bandcamp que vous aviez mis que c'était un spectacle audiovisuel aussi, Elements.
Ouais, on avait travaillé avec un vidéaste,
okay.
Un éclairagiste, et on avait développé un concept comme ça de projection vidéo en même temps que la composition musicale.
D'accord. Et avant ça, il y avait encore eu autre chose, il y avait eu Caligari. Le cabinet du docteur
Caligari.
Caligari,
c'est plus vieux. Juste avant les Mantes, en fait, c'est comme disait Mathieu, c'est Electric Soul. Mais,
mais en tant que ciné-concert.
Le premier ciné-concert qu'on a fait, c'était effectivement le cabinet du docteur Caligari, qui était à l'initiative du festival Premier Plan à Angers, qui nous a demandé de faire un ciné-concert. C'était une commande du festival Premier Plan.
Ah, c'est ce que je voulais vous demander, comment vous êtes venu à ça.
En fait, c'est une commande d'un festival de cinéma sur Angers qui s'appelle Premier Plan, qui est un festival de premiers films de réalisateurs européens.
Okay.
Qui est un festival qui commence à vraiment faire marquer le pas et faire entendre parler de lui.
Ouais, ouais, carrément.
Et donc c'est une commande en fait du festival. Et puis donc ça a été créé juste d'abord pour le festival, et puis après, une fois que tu as créé 1h, 1h15 de musique originale, que tu prends plaisir à le faire, que tu trouves que c'est pertinent, bah, tu te dis bah, pourquoi pas le proposer à l'extérieur. Mm. Donc Caligari, on l'a proposé un peu à gauche, à droite, comme ça, sans vraiment avoir de démarche un peu organisée. Et quelques années plus tard, quand le festival nous a redemandé un autre ciné-concert, donc on a fait Berlin, Symphonie d'une grande ville. Et là, par contre, on s'est dit on va le faire en disque et on va essayer de tourner un peu plus.
Pour compléter ce que dit Raggy, c'est quand même un exercice qui nous a ultra branchés. C'est-à-dire de faire. Parce qu'il y a plein de gens qui ont toujours dit que notre musique, elle pouvait être un peu cinématographique, qu'on voyait des images dessus, tu vois, musique instrumentale. Et donc, en fait, on était vachement contents. Ça nous a donné aussi une marge de liberté qu'on a retrouvée. Au-delà du dub et tout, quoi. Vraiment à 5, tu vois, il n'y a pas de voix là pour le coup. Tu retombes sur le schéma, mais par contre, c'est même plus rock. Enfin, on s'est vraiment, vraiment retrouvé. C'est un exercice, tu vois, c'est un peu comme faire la bande originale rêvée parce qu'en fait, tu réécris tout ça. Mm. Et après, ce qui était quand même intéressant dans notre nébuleuse artistique, c'est que Caligari, c'était un film de. Muet allemand, tu vois, de la République de Weimar. Et
avec un scénario.
Et Berlin, pareil. Donc on est quand même un peu dans cette mouvance esthétique-là. Moi, personnellement, qui m'a toujours plu, je pense qu'il y a pas mal de gens dans le groupe, on les a plus ou moins découverts, mais voilà. C'est aussi des références à des groupes qu'on a beaucoup aimés, tu vois, style Bauhaus, il s'appelle comme ça, mais bon, c'est un groupe anglais, mais c'est pareil. Voilà, ça fait un peu. Écho à la scène un peu new wave, cold wave anglaise de ces années-là, quoi. Mais même si on, enfin voilà, je pense que de toute façon c'est quand même une époque dans laquelle on a puisé nos références en fait.
Oui.
Même Raggy, enfin on vient tous d'horizons très différents musicaux, mais en fait
bah, c'est ça, même inconsciemment,
le bouillon du groupe, il est quand même clairement là-dedans, des ponts vers la Jamaïque évidemment. Mais
oui.
On fait de 75 à 83, je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses.
Et ouais, vous aviez avant ça, en termes personnels peut-être plus, un rapport au cinéma quelconque ou pas?
Bon, il y a certains d'entre nous qui sont de gros fans et de gros consommateurs de cinéma, ouais. D'autres moins. Donc on a un rapport à ça. On est des fans de musique de film aussi.
Ouais.
Et puis effectivement, on a kiffé développer de la musique instrumentale, comme disait Mathieu aussi, pour le côté cinématique que ça peut apporter.
Ouais.
Pour la puissance d'évocation de l'instrumental, ça crée des images mentales, donc ça se colle bien. À illustrer les images, mais c'est aussi ça qui fait que le choix de ce cinéma muet il est intéressant, c'est que on peut aussi juste enlever la bande son et coller la nôtre. Mmh. Et on n'a pas de dialogue sonore à faire rentrer. On n'est pas obligé de jongler avec une bande son pour qu'on puisse suivre le fil du film. On peut juste enlever la partition originale, mettre la nôtre et se confronter à une œuvre. Et du coup, vraiment qu'il y ait un dialogue entre le film et notre musique. Quoi.
La différence entre les deux ciné-concerts qu'on a fait, c'est Caligari, qui est plus vieux que Berlin, et de pas beaucoup, hein, ça a 8 ans, 8 ans de différence, d'écart, ce qui est énorme. Mais donc ça doit être 19 pour Caligari, 1919, et 27, je crois, pour Berlin. C'est aussi des périodes de changement politique et tout ça énorme, mais t'as Caligari qui fait référence au surréalisme, les mecs qui sont dans l'expérimentation totale. C'est du théâtre filmé, mais avec des décors de Barjo, enfin bon bref. Et même sans parler de l'histoire elle-même, qui est carrément un...
Oui, c'est un truc. C'est...
Ah non, c'est un truc de malade. Ça rajoute un truc. Shutter Island de Scorsese, il a tout pompé.
Bah oui, c'est sûr.
Tout pompé. Enfin, le côté... T'as un scénario sans faire de... Comment on appelle ça?
De divulgachage.
De divulgachage. Merci, Raggy. En fait, tu suis une histoire et à la chute finale, tu comprends que c'est pas ça qui s'est passé. Tu comprends. Donc bon, voilà. Donc ça déjà, moi je trouve scénaristiquement parlant, c'est inépuisable.
Oui, puis c'est
vraiment une idée d'enfer. Donc ça existait déjà depuis les balbutiements du cinéma, comme Méliès et tout ça. Moi je trouve qu'il y a une beauté dans ces trucs-là qui est énorme. Parce que c'est au début, il se passe vraiment sans technique, sans rien, en fait, on s'en fout. Et Berlin, qui est 7 ans après, tu changes carrément de génération. Je veux dire, la métrique du film, elle est complètement différente. C'est un pseudo-documentaire. En fait, il est reconnu, ce film-là, parce que tu as des angles de vue. Vraiment, techniquement, au niveau du cinéma, il a inventé des choses,
okay.
Le mec. Mais par contre, il y a des parties qui sont documentaires, en fait. Une journée à Berlin dans cette année-là, donc du matin au soir. Donc c'est aussi c'est ça, ouais. Parce que les gens, ce qui est vachement intéressant, c'est que ces films-là, tu peux les voir et les revoir et les revoir et tu découvres d'autres choses.
Oui.
Nous, on les a toujours pris comme une beauté esthétique visuelle qui pouvait faire... office de d'image.
Ouais, ouais.
Et nous, on colle de la musique.
On parlait aussi, donc, ça me faisait penser à ça, donc musique de film. Est-ce que John Carpenter, éventuellement quelqu'un qui peut vous causer Elements, j'ai entendu vachement plus de synthé et de textures
Les musiques de film de Carpenter, ça fait partie de nos influences.
Ça a niqué le cerveau de tout le monde.
Puis ce cinéma-là aussi
Do it yourself, populaire, c'est un
populaire, ce cinéma populaire un peu facile aussi, mais kiffant, quoi, tu vois, qui a pas forcément vocation à tous ces films n'ont pas forcément vocation à s'inscrire dans l'histoire du cinéma, mais par contre c'est jouissif de regarder.
Série B,
c'est qu'ils font regarder, c'est de la série B, voilà. Ces musiques, le côté aussi où tu sens que c'est fait dans son home studio, mais du coup tu sens aussi une proximité, enfin tu sens vraiment que entre le film et la musique c'est collé, quoi. C'est la même personne qui le fait, donc ça, c'est vraiment le même geste, quoi.
Ah bah oui.
Et en plus, c'est vraiment un peu qui est en plus un mec bien. Il a pas voté Trump, ça c'est clair. C'est un Apache, quoi.
Ouais.
Mais après il vient l'école Corman, etc. Donc parce que faut savoir, le mec c'est très peu de moyens. Il peut faire une gestuelle artistique. Enfin, je veux dire, même sincèrement, faut voir The Thing, quoi.
Ouais.
La chose, parce que là il y a des moyens.
Enfin, oui.
Je vais être un t-shirt de Night of the Living Dead, mais Romero c'est pareil. Enfin, moi j'adore. Puis là c'est dommage parce qu'il y a le plus gros fan dans le groupe. Je pense que c'est bien JC. Lui il était vraiment branché. Série B voire série Z. Carpenter a fait des bouses, Mais voilà, même moi, je suis désolé, New York 1997, enfin, puis ouais, Kurt Russell, tu vois.
Ouais, ouais.
Enfin, voilà, c'est... Et puis, comment ça s'appelle Invasion Los Angeles.
Oui.
Putain, mais exceptionnel. C'est 1984 revisité.
Ouais.
Il y a plein...
Ouais, ouais.
Et le message politique, surtout, qu'il y a derrière, quoi.
Ouais, ouais.
Et sa, et son, sa réécriture du village des damnés aussi, elle est terrible.
Ouais.
Enfin, voilà.
Ah oui, non, mais c'est
de toute façon, dingue, tous ouais. les films de série B ont toujours un sous-texte politique.
Mmh.
Que ce soit, mais comme les comics, comme voilà.
Ouais, ouais.
Et ça raconte toujours c'est populaire, mais c'est tellement plus, plus en fait, c'est beaucoup plus intelligent que ce qu'on y perçoit,
ouais.
Et beaucoup plus insidieux. Il y a un double texte, enfin voilà, comme Romero, en fait.
Ouais, ouais.
Voilà, c'est oui un film de zombies, mais c'est autre chose que ça.
C'est autre chose, ouais.
Voilà.
La forme, elle est là pour un peu voilà. amener plus de gens à.
Donc moi avec un côté très ludique et qui marche, ah bah, teenage ouais. et voilà, donc faut se faire plaisir aussi, tu vois.
Ouais,
enfin je veux dire
ça, ouais.
Moi je suis pas loin quand même de préférer Carpenter de loin à Bergman, voire à Truffaut.
OK, ouais.
Et je parle pas de Romer et de toute la nouvelle vague.
Ouais, non mais bon, c'est bref. Ça se défend.
Qui est un cinéma bourgeois.
la question la plus stupide qui me semblait être une des plus intéressantes, c'est comment on en vient au dub. Parce que je pense à l'époque où vous avez commencé, à titre perso, c'est pas un truc qu'on entendait beaucoup à la radio ou n'importe où.
Pas du tout à la radio.
Moi, c'est devenu à la mode pour moi, ouais, fin 90, début 2000.
Ouais, ouais.
Donc, nous c'est 96, un truc comme
95.
Alors, ouais. Le dub français, parce que le dub, alors, le oui. dub là, c'est, ouais, ouais. c'est vieux comme, c'est vieux comme le reggae.
En France, à vos âges à cette époque, comment ça nous comment est venu aux oreilles arrive, comment on veut jouer de ça, pourquoi?
C'est un mélange de pas mal de facteurs, comme beaucoup de choses qui font qu'on en arrive là, mais je pense que ça a commencé déjà par...
Contextualiser.
Ça a déjà commencé déjà par la fusion, en fait, par le mélange des chapelles. Parce qu'il faut se remettre dans les fins 80, début 90, la musique était très segmentée et les goûts des gens étaient déterminants de leurs potes, de des milieux dans lesquels ils traînaient, ouais. et ça se mélangeait pas. On était très peu. En France surtout, parce qu'il y avait, y avait eu punk et reggae party en Angleterre bien avant. Mais pour parler de la France, quand on était fan de punk, on était fan de punk. Quand on était fan de funk, on était fan de funk. Quand on était fan de reggae, on était fan de reggae. Alors, ceux qui étaient fans de funk pouvaient être fans de reggae. On pouvait écouter du rock et de la new wave, mais il y avait des chapelles comme ça. C'était blanc-noir un peu séparé.
C'était bon.
Et après, il y avait des mélomanes dans tout ça qui étaient capables d'écouter de la bonne musique et d'aller chercher plein de choses. Mais du coup, début 90, il y a eu ce phénomène de fusion où il a commencé à avoir donc du rock fusion qui était un peu funk rock et puis ça a commencé à mélanger un peu schématiquement des rockers ont découvert le groove et des grooveurs ont découvert un peu du rock quoi, pour être très schématique.
Ça c'est pour ton chemin que je vois, parce que tu parles de fusion, ce qui est d'ailleurs moi un genre que j'aime pas
même après c'est même, un mot qui veut tout
non,
à dire
j'aime pas du tout après, même le mot fusion, mais je suis c'est pour moi, il a dit punky reggae party, pour moi c'est vraiment l'idéal, c'est vraiment la rencontre des punks et du reggae. Pour moi, ça c'est vraiment ça. C'est-à-dire blanc, black, two tone, les specials. Voilà. Parce qu'il y a aussi un côté.
L'album Sandinista le Clash qui a été.
Qu'on voit plus maintenant, mais où des gens socialement issus du même endroit en France font une musique. Avec mon pote qui écoute du funk, qui va me le donner, etc. En fait, t'as même pas besoin d'aller à New York pour ça. T'as juste besoin d'aller dans le quartier ou d'aller avec ton pote à l'école qui te dit que lui, il vient de telle culture et qu'il écoute telle chose. Et que tu mets ça en commun. Et c'est tellement l'histoire de la musique, quoi. C'est dans ce sens-là où moi, Zenzile, ça a pris son sens. Et comme dit Raggy, moi, je venais d'une époque, j'ai commencé de la musique, où malgré tout, ok, c'est punk, c'est ceci, cela, mais ça, c'était avec des œillères, quoi. C'était avec beaucoup de fermeture d'esprit. Et puis, je pense que malgré tout, le suicide de Cobain, moi, il m'a mis par terre, en fait. Ça n'a jamais été mon idole. J'étais un peu trop vieux, déjà, je pense. Même si j'ai ultra kiffé. Mais pour moi, le message, c'est mon punk à moi. Un mec, il a du succès, t'es là, tu fais ok, super, tac, 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 tu te mets une balle, oh, c'est pas super positif. Je crois pas que le rock'n'roll ait beaucoup d'avenir, tu vois, le No Future, il est là, quoi, déjà. Donc moi, j'ai eu vraiment besoin d'une musique positive. Mais vraiment, hein. C'est-à-dire moins de blabla, enfin pour ma part,
Il y a un rejet, Il y a une volonté d'éloignement aussi du chanteur, qui est prêcheur, donneur de leçons, où on veut aussi kiffer le son, kiffer la zik, mais me dis pas ce que j'ai à penser, en fait. Et du coup, quand on arrivait avec une musique instrumentale comme ça, il y avait l'énergie du punk dans ce qu'on faisait. Il y avait aussi le côté groove de la musique jamaïcaine. Il y avait le psychédélisme avec les effets. Et en fait, ça permettait aussi aux gens de raconter ce qu'ils avaient envie de raconter, sans qu'on leur mette des mots sur ce qu'ils devaient penser ou sur ce qu'ils devaient entendre. Et donc, la musique parlait par elle-même et elle disait plein de choses parce qu'elle était mélangée de plein de choses ça correspondait nous à ce qu'on avait envie de faire et à ce qu'on avait envie de consommer aussi comme musique et de faire et ça a trouvé un écho de dans le public, quoi. Parce qu'au départ l'idée elle était plus pour Zenzile d'enregistrer des instrus en local de répète ou en studio pour faire des dubs derrière la console, pas forcément faire des lives, en fait.
Non.
Et il s'est trouvé qu'il y avait un écho que le public se retrouvait dans cette transe psychédélique et que ça a donné ce que ça a donné après, quoi.
Qui a accompagné d'ailleurs l'émergence du mouvement techno aussi, tu vois, qui est une musique purement instrumentale, tu vois. Enfin, tu vois, tu vois, et d'un autre côté le rap, qui est quand même les deux plus grosses musiques qui ont les plus grosses vagues et tout ça, en France et même dans le monde, c'est le hip-hop et la techno.
Ouais, ouais.
Je suis désolé, c'est celle qui aujourd'hui qui parle aux jeunes, tu vois. J'adore le rock, etc. Mais ce sont vraiment les vrais mouvements issus du peuple, en fait.
Ouais, ouais.
C'est pas les boîtes de musique, les labels qui ont décidé ça. C'est les mecs qui s'y sont collés, quoi. C'est pour ça que c'est le punk. Et que ça avait vachement clivé, moi, à l'époque. Parce que moi, tous les mecs avec qui je jouais, ils voulaient entendre parler ni de l'un ni de l'autre, tu vois.
Ah oui, d'accord.
Mais oui, mais c'est de toute façon. Pour la petite histoire aussi, dans le groupe, on s'est mis aussi au dub parce qu'on avait plein le cul, comme disait Raggy, des prêcheurs, enfin, tu vois. Et je pense, alors ça, c'est un niveau au-delà. Mais moi, dans mon expérience, on appelle ça les chianteurs et les chianteuses.
Ok.
Voilà. Donc, je pense que voilà. Mais il faut reconnaître que, par contre, un bon chianteur et une bonne chianteuse, c'est bien.
Ben oui.
Quand ils font le job, ils en font, en fait. Tu vois, c'est,
ouais.
Moi, c'est, dans mon expérience, c'est casse-couille d'entendre un mec qui est toujours en retard parce qu'il n'a pas écrit ses textes quand tu arrives en studio, qui fait gna gna gna, trop de ceci, trop de cela. Tu vois, voilà. Mais ce qui, je pense, qui correspond à l'histoire de la musique en Angleterre, sur le Floyd, sur toutes les.
Ouais.
Tu vois, quand on nous a dit, pour la petite anecdote, alors qu'est-ce que vous faites, Zenzile, au début? Je m'en occupais. Bah, on fait du dub. Mais c'est Kezako, c'est quoi ça? C'est du dub, je t'explique, tanana, ça vient d'un. Ok, d'accord, allez, mais bon, bref, on connaît pas, etc. Ça marchera jamais votre truc parce qu'il n'y a pas de chant. Ok, laisse-moi t'expliquer que les Pink Floyd, il n'y a pas de chant, ils ont vendu juste des millions de caisses. Enfin, tu vois, des exemples de musique instrumentale qu'est-ce qu'on en a? Il y a toujours, voilà.
Ouais.
Et puis après, ces mêmes personnes-là, quand tu viens avec un chanteur, quand on rencontre Jamaica, les mêmes.
Mmh.
C'était quoi le dub? Mais vous faites plus de dub, il y a du chant. Voilà. Mais bon, pour te dire à peu près dans le monde dans lequel on évolue, il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque. Hein.
Oui.
Donc on s'en sort bien.
Et maintenant, la partie analytique avec les gens du public. Rime non prévue. Le concert vient de se terminer. Je suis avec deux spectateurs, auditeurs. Trois, éventuellement. J'aurais pas de la place pour tout le monde.
Studio
Zef. Studio Zef, tout à fait.
Bonsoir.
Alors,
ravi d'être à l'antenne.
Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à chaud comme ça sur un concert finalement?
Non, belle ambiance, un vieux groupe qui tourne, ça fait plaisir. Là, ils se sont bien rafraîchis sur leur programmation avec l'image. Bon, sans l'image, ils retournent un peu dans leur carcan, mais c'est toujours très plaisant.
On est là pour avoir des avis tranchés. Voilà. Donc maintenant, je vais demander à monsieur.
Moi, j'ai trouvé ça super. Et le détour qu'ils ont fait il y a quelques années par une phase très rock, on la ressent maintenant. Et je trouve que c'est comme les bons acteurs qui sont la somme de tous les films qu'ils ont fait. Ils ont de l'expérience et tout est millimétré, tout est très très fort. On a l'impression que c'est spontané, mais sans doute il y a beaucoup beaucoup de travail derrière. Ouais, vraiment très très bien.
Un troisième avis éventuellement?
Je dirais que ça devrait passer sur Nostalgie.
Dans combien de temps?
Bah là tout de suite maintenant, là ça y est, moi c'est ma période. Moi je suis retombé un peu en enfance, donc du coup franchement j'ai bien kiffé.
Ça t'a rappelé les débuts des années 2000?
Les fins des années 90. Plutôt.
Effectivement, premier album, 99, Zenzile. Ouais.
Bah, je savais pas. Mais non, ouais, c'était chambé. C'est trop bien.
Cool. Merci messieurs. Bonne soirée.
Bonne soirée.